besoin de changement. Seulement, nous n'étions pas prêts pour ce changement parce qu'il y avait l'habitude d'une production prise en charge par l'État. Nous n'avons jamais été confrontés au marché, aux difficultés du marché. Et il se trouve que maintenant, nous nous sommes trouvés propulsés sur cette nouvelle organisation de l'activité cinématographique. Et nous ne sommes pas tous préparés. Certains d'entre nous ont pu prendre avec beaucoup de punch et d'allégresse cette nouvelle situation. Ils se sont tout de suite réorganisés. Pour d'autres, c'est vraiment une aventure qui leur fait craindre beaucoup de choses. Le nouveau paysage de l'audiovisuel actuellement, c'est une société étatique en état de... en voie d'extinction, pratiquement, des travailleurs qui essayent de sauver ce qu'ils peuvent sauver, au moins que les 30 années qu'ils ont passées au service du cinéma ne partent pas comme ça, qu'ils puissent avoir la possibilité de poursuivre cette activité, des cinéastes qui sont jetés sur la nouvelle scène et qui ont besoin de moyens pour pouvoir travailler. Il va y avoir évidemment d'autres exigences. Il faut avoir des films qui répondent à l'attente du public. Il faut avoir des films qui peuvent soutenir la concurrence internationale, puisqu'au niveau de l'image, l'image est unique, qu'elle vienne d'Afrique ou qu'elle vienne d'Asie ou d'Europe. Quand le spectateur est face à l'image, son attitude est la même. Et il exige une qualité, c'est tout à fait son droit. Donc on va avoir de nouvelles exigences. En ce qui me concerne, je trouve ce défi assez intéressant. Moi, je suis venue très tardivement à la réalisation, par crainte. J'ai toujours été en marge de l'activité cinématographique. Si on peut dire que la production et tout ce qui est avant le tournage constitue la marge, bon, j'étais un peu à l'orée de la réalisation. Et malheureusement, quand je me suis décidée à plonger et à faire de la réalisation, il n'y a plus de film, on ne fait plus de production.
C'est le moment le plus difficile.
Oui, voilà, j'aurais dû me décider avant. Mais on ne refait pas son histoire, parce que j'étais en attente justement du sujet qui allait faire que je n'aurais plus d'hésitation, que je n'aurais plus de prétexte. Et c'était ce moment qui était arrivé pour les courts-métrages que j'ai réalisés. Et évidemment, personne ne m'aurait arrêté, bien que j'ai eu des difficultés. Mais le moment était arrivé où je savais qu'il fallait que je le fasse. Faire du cinéma, souvent, c'est une question de chance et d'opportunité. Est-ce qu'on arrive à la saisir? Est-ce qu'on n'arrive pas à la saisir? Et lorsque je revois ce petit itinéraire que j'ai eu, si j'avais seulement laissé passer un mois... ça n'aurait pas été possible. C'est-à-dire que tout est... Disons qu'il faut être au rendez-vous de son destin à un moment donné.
Vous pouvez être un peu plus concrète, Nadia, dans cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui, tout à coup, fait le déclic? C'est aujourd'hui, je sais, maintenant, il faut que je me lance. Par rapport à quel type d'hésitation que vous aviez avant?
Ça, je le dis dans la mesure où ça peut servir à d'autres. Faire un film, ça demande trois choses. J'essaie de résumer, après je m'explique. Ça demande trois choses. Il faut d'abord croire en soi. Il faut vouloir et être tenace. Voilà. Si on a ces trois éléments, je crois qu'on peut le faire. Croire en soi, c'est-à-dire considérer que même si les autres ne croient pas en nous, nous on a vraiment quelque chose à dire. Et parfois on est tout seul à le croire. Mais il faut être très sûr de soi. Et cette assurance, en premier lieu, c'est en soi-même qu'il faut la puiser. Après on convainc les autres. Quand ils vous voient tellement décidés, ils se disent « tiens, peut-être qu'elle a vraiment quelque chose à dire ». Et puis après, il faut vouloir, parce qu'il y a tellement d'obstacles à ce chemin, il y a tellement de choses qui peuvent nous décourager, que si on ne veut pas vraiment, les projets avortent. Combien de gens ont cette velléité de faire du cinéma et qu'ils n'arrivent pas à la faire aboutir? Il y a évidemment un facteur chance et croisement d'opportunités qui arrivent, et ensuite il faut être tenace. C'est peut-être un des métiers qui demande le plus de ténacité. Et moi, ce qui m'a plu au début et qui m'a beaucoup encouragée, c'est que le premier sujet que j'ai eu envie de traiter, c'est le sujet de ces femmes pêcheurs. Et le métier de la pêche artisanale est aussi par excellence un métier d'homme. Un métier qui demande beaucoup de volonté, beaucoup de ténacité et d'endurance. Alors j'y ai trouvé un parallèle très intéressant. Et à chaque fois que je risquais de faiblir, je me dis mais... les hommes, le personnage que j'ai dans le documentaire le dit, les hommes ont des difficultés à faire ce métier, et c'est vrai, mais elle explique pourquoi elle le fait et qu'elle continue à le faire. Et lorsqu'elle est en mer, j'ai beaucoup aimé cette image, elle dit « je suis comme un célibataire sur une barque ». Alors j'ai bien aimé ça parce que j'y ai trouvé beaucoup, beaucoup de métaphores, de symboles avec ce métier que j'ai souhaité réaliser.
J'ai envie de parler de cela, parce que pourquoi décider de parler des Algériennes et en particulier d'une situation tellement particulière qui est celle de cette femme, ces femmes pêcheuses, puisqu'elles sont femmes pêcheuses de grand-mère, mère à petite-fille.
C'est peut-être dû au fait que j'ai toujours été préoccupée de l'amélioration de la condition féminine, puisque j'ai été militante dans des associations pour la défense des droits des femmes depuis de très 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 longues années. Parfois je me demande si je ne l'ai pas toujours été. Mais à un moment, je suis arrivée à une sorte de sentiment qu'il fallait que je change mon apport à la cause des femmes, c'est-à-dire que le faire dans d'interminables réunions, bien que j'honore vraiment le combat de celles qui sont militantes, mais je sentais que j'arrivais vraiment au bout d'une expérience. C'est-à-dire que ça m'apportait plus et je n'apportais plus, mis à part être au devant de la scène, intervenir, faire des démarches, aider. L'intervention était ponctuelle pour régler certains cas, ou alors elle pouvait être sur le long terme, autour d'idées, etc. Mais je sentais que j'étais plus convaincue que ce combat pouvait... Il peut toujours amener des choses, mais que ma contribution à moi, elle n'était pas aussi efficace que je le souhaitais. Et donc, je me suis dit, s'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est essayer de donner une autre image. Et moi, je suis convaincue que faire un film ou faire un portrait, faire le portrait d'une femme qui se bat comme celle que j'ai montrée, mais qui se bat au quotidien et sans côté spectaculaire, ça peut avoir un effet stimulant pour d'autres.
Même si c'est une situation aussi spécifique que celle de ces trois femmes pêcheuses, qu'on retrouve, je suis sûre, pas très souvent, je crois qu'elles sont même les seules, vous avez dit dans le film, non, femmes pêcheuses en Algérie, ou bien cet autre court-métrage où on voit cette femme qui vit une situation très particulière, religieuse, dans un oasis du sud algérien. Vous choisissez vraiment des portraits très spécifiques.
Oui, je les choisis spécifiques et particuliers, mais en même temps, je m'aperçois combien le particulier est représentatif du général. C'est-à-dire que ce qui semble être une exception, au fond, à bien y regarder, c'est le quotidien de beaucoup de femmes. C'est-à-dire que parfois, on présente le cas de femmes en détresse, de femmes en difficulté, comme étant le général. Ce sont évidemment beaucoup de femmes qui sont concernées par ça, mais les situations de femmes qui s'en sortent sont aussi infiniment plus nombreuses. Alors, est-ce qu'on a envie de montrer quelle face de la médaille veut-on montrer? Moi, j'ai choisi de montrer des femmes battantes, mais battantes au quotidien, c'est-à-dire des personnages ordinaires, tout à fait ordinaires, ni des stars, ni des gens qui ont réussi d'une certaine manière, mais des femmes au quotidien. Et ça, on s'aperçoit qu'il y en a des millions. Et elles existent en Algérie, comme elles peuvent exister en Suisse, comme elles existent au Japon, partout. Finalement, quel angle avons-nous envie de montrer de la société? Est-ce qu'on veut montrer ces femmes qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, mais qui ont une énergie terrible? Et finalement, on n'en arrive pas à discuter femme ou homme. Finalement, c'est l'humain, c'est l'être humain. Donc moi, ce que j'essaie de saisir, c'est à chaque fois des situations de paradoxe. Parce que le paradoxe, il est générateur de mouvements, il est générateur de... Il y a des contradictions qui montrent que la société, elle vit. C'est jamais ou tout blanc ou tout noir. Être une femme en Algérie, c'est pas le mur des lamentations, à raconter les malheurs qui s'abattent sur nous et tout ça. Non, il y a une société qui vit, il y a des gens qui travaillent, il y a des femmes qui se battent. Et il m'a semblé que dans ces cas singuliers, particuliers, on pouvait trouver les caractéristiques du général. Pour moi, les femmes algériennes sont celles que j'ai montrées, bien que ça paraisse tout à fait singulier. Et pourtant, quand je dis femme algérienne, pour moi, c'est plutôt ces portraits de femmes.
La comparaison, vous dites des femmes comme ça battantes, on en trouverait dans d'autres pays, mais est-ce que c'est peut-être pas particulièrement significatif et symbolique que vous ayez envie de faire ces portraits-là aujourd'hui en Algérie? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la situation de votre pays où, comme vous le dites, c'est pas le mur des lamentations, il y en a des tas de femmes qui se battent, mais il y en a aussi beaucoup qui vivent des situations extrêmement graves. Donc faire un film comme celui-là, donner la parole aux femmes aujourd'hui, est-ce que c'est pas un symbole différent que si je faisais le même film en Suisse par exemple?
Bon, en fait, les portraits que j'ai choisi de faire n'ont pas du tout de lien avec l'actualité politique. Si je devais faire un film à partir de la situation actuelle, la chose qui me touche le plus, c'est ces femmes algériennes qui se trouvent déchirées, qui voient leurs enfants se battre, qui ont un enfant dans le camp des islamistes et un autre enfant dans le camp des forces de sécurité. Et qui se sont retrouvés parfois à pleurer l'un et l'autre, parce que l'un et l'autre ont été victimes de tout ce qui s'est passé. Et elles souffrent le plus du déchirement de la société, à l'image de l'Algérie. La seule chose qu'elles peuvent souhaiter, c'est que leurs enfants se réconcilient, c'est que les plaies se referment et que l'Algérie puisse sortir, elle, vainqueur de cette situation. Parce que c'est ni l'un ou l'autre camp peut être vainqueur, mais l'Algérie.
Et elles peuvent jouer un rôle de réconciliatrice, ces mères-là, à votre avis?
Si on est algérienne, si on se sent profondément attachée à ce pays, on peut que souhaiter ça. Moi, la chose que je déplore le plus, c'est certaines personnes qui sont un peu loin du conflit et qui jettent de l'huile sur le feu. Qui disent que c'est pas possible, il y a trop de sang qui a coulé pour que maintenant on parle de réconciliation, et qui vous regardent horrifiés quand vous osez prononcer le mot de réconciliation ou dialogue, en disant que c'est pas possible, il y a trop de sang qui a coulé pour qu'aujourd'hui on tourne la page. Moi, je trouve cette attitude absolument inacceptable. parce que parler comme ça, c'est vouloir que la guerre se poursuive, c'est vouloir qu'il y ait un camp qui l'emporte sur l'autre, c'est vouloir qu'il y ait encore plus de victimes et des gens qui ne se rendent pas compte que chacune des phrases comme ça, c'est à nouveau des morts, c'est à nouveau des deuils, c'est à nouveau des... Et il m'est arrivé une fois de m'accrocher avec une dame qui était venue m'interpeller après que j'ai exprimé cette opinion en me disant de manière très agressive, mais c'est pas possible, il y a eu trop de morts pour qu'aujourd'hui on retrouve le chemin de la réconciliation. Non, il y a le prix du sang à payer. Je trouve ça terrible. Et ça venait de la bouche d'une femme. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu as un enfant de 18 ans? Elle m'a dit non, j'ai pas d'enfant. Je lui ai dit, si tu avais un enfant de 18 ans, peut-être que tu réfléchiras deux fois, parce que la phrase que tu viens de prononcer, ça veut dire que demain, il peut être pris dans un ou l'autre camp, et évidemment, tu ne sais pas ce qui peut lui advenir. Et je lui ai dit, tu connais l'esprit d'absolu qu'on a quand on a 18 ans, donc il s'engagera totalement dans l'un ou l'autre camp. Et je lui ai dit, est-ce qu'un jour, tu as pu imaginer que Nelson Mandela soit président de l'Afrique du Sud? Je dis, personne ne l'imaginait, ça semblait dépasser absolument l'entendement. Enfermé 30 ans dans une prison, pratiquement, quand il en est sorti, il y a un processus d'annulation de l'apartheid qui s'est mis en place. Qui aurait imaginé seulement que les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud cohabitent et puissent se regarder de manière normale? Personne ne l'aurait imaginé. Qui aurait imaginé? Alors comment toi, tu considères qu'il est inconcevable que la réconciliation soit mise à l'ordre du jour en Algérie, alors qu'il s'agit d'un même peuple, qu'il s'agit de frères d'une même famille? Donc j'étais scandalisée. Et c'est ma position.
Et aujourd'hui, faire un film sur un thème comme celui-là, ce serait une chose possible et vous auriez envie de le faire?
J'aurais envie de le faire, mais ça me semble impossible.
Vous êtes dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8 et vous entendez chanter en ce moment Simone et Tamar, qui est une grande chanteuse algérienne de ce que l'on appelle le malouf. Le malouf, c'est de la musique classique d'origine andalouse. Et ce qu'a chanté Simone Tamar, c'est ses différents aspects tels qu'ils étaient interprétés durant les années 30. C'est un style musical qui est beaucoup interprété dans l'Est du Maghreb, par exemple en Algérie, dans le Constantinois. Nous sommes toujours dans notre entretien avec Nadia Cherabi, réalisatrice de cinéma algérienne. Et tout de suite, elle continuera à nous expliquer, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'elle tourne plutôt du documentaire que de la fiction. Et ce que le travail de documentaire exige, quelles sont ses difficultés, par exemple, à l'heure actuelle en Algérie, dans la situation sécuritaire présente, d'arriver à faire parler les gens d'eux-mêmes tout en ne les mettant pas en danger, et pour le cinéaste, tout en ne produisant pas un film trop auto-censuré. Parce que, par exemple, Nadia Cherabi disait qu'elle-même, dans son film « Fatima et la mer », avait supprimé un certain nombre de choses d'entente avec les femmes pêcheuses par crainte que ça leur provoque des ennuis. Eh bien, est-ce que plus tard, lorsque la situation sera plus aussi grave qu'aujourd'hui, sauront-elles ne plus s'auto-censurer? C'est une question que nous étions posée au cours du débat qui avait eu lieu dans le cadre du festival Black Movie après le visionnement des deux courts-métrages de Nadia Cherabi, Fatima et la mère et Fatima Amaria.
No. Nous allons nous interrompre ici dans notre entretien avec Nadia Cherabi parce que le temps court, le temps passe. Alors je vous rappelle rapidement les manifestations proposées pour cette journée du 8 mars 1998 qui sera fêtée le samedi 7 mars à Genève. Cela commence donc le samedi à 11h à la place de l'Octroi à Carouge par une manifestation pour demander l'arrêt des tortures, des massacres, des rapes, des viols contre les femmes et la liberté, les pleins droits pour ces femmes, l'abolition du code de la famille et d'exiger du Conseil fédéral l'accueil en Suisse des femmes menacées par la violence et de l'accueil de tous les démocrates algériens menacés par la violence. Aussi, un cri dans cette manifestation contre le renvoi de tous les requérants d'asile bosniaques et kosovars, en particulier de ces femmes qui vivent seules en Suisse avec leurs enfants et qui, pour qui le retour en Bosnie est impensable parce qu'en tant que femme seule, la situation est encore plus difficile que pour les autres. Donc aussi là, un accueil digne et solidaire devrait leur être accordé en Suisse. Cette manifestation se rendra à la maison de quartier de la Jonction par la rue de Carouge et le boulevard de Karl Vogt. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et la journée continuera par toute une série de manifestations culturelles à la mémoire des femmes organisées par l'association Memoria Viva, une association argentine pour lutter contre les personnes qui ont été victimes de violences des dictatures partout dans le monde. Et puis, ce jour-là, film d'Edna Politi, mais film aussi d'Edna Politi que vous pouvez découvrir dans le cadre du 10e festival de films de femmes, films qui sont projetés à la Maison des Arts du Krutli dans la salle de fonction cinéma tous les soirs de cette semaine jusqu'au samedi 7 mars. Pardon, excusez-moi pour les bizarres remarques sur l'antenne. Ensuite de cela, la soirée se terminera samedi en grande fête. Voilà. Alors, nous retrouverons l'association des mères seules de Bosnie avec leurs enfants la semaine prochaine dans Remue-Ménage, Onde Femme Radio Zone 93.8, puisque certaines d'entre elles viendront passer cette émission pour nous parler de ce qui les a amenées en Suisse et ce qui surtout les fait craindre énormément de rentrer en Bosnie. Et pour terminer cette émission, eh bien, la voix d'une femme superbe, toujours tzigane, une femme espagnole. Et puis tout à l'heure, les informels de Radio Pleine Lune, aujourd'hui c'est pas possible parce que Viviane fait une enquête qui la retient. Alors vous retrouverez la chanteuse brésilienne Fernanda Abreu. Mais à 19h, c'est les coups de cœur de Marjolaine.
ay, fueron víctimas.
¡Ay, el precio de tu libertad!